Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Simon Dutin, Cédric Emmons, Jérôme Pinault. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à midi. Merci infiniment de votre fidélité. On a parlé du Stade Toulousain à 9h, une émission déjà, une première heure à retrouver en podcast. On va parler de l'UBB à 11h, évidemment, les malheureux. L'UBB qui dit encore adieu au bouclier de Brinus. Pas de fessé cette fois, mais une défaite au bout de la nuit en prolongation. Cette défaite est-elle plus traumatisante que celle subie l'année dernière? L'humiliation en 2024. Dans quelques instants, le bras de fer des GG avec le Paris Saint-Germain qui retrouve Lionel Messi en 8e de finale du Mondial des clubs. Son passage à Paris est-il vraiment un échec total? On en parlera, les amis, vous n'êtes pas d'accord. Et puis 10h30, le dossier des GG spécial sur mesure pour Jérôme Pinault. Est-ce qu'il faut s'attendre au Tour de France des suspicions? Voilà, je vous raconterai pourquoi on vous pose cette question aujourd'hui. Ce sera à 10h30. Et puis, évidemment, Marion Bartoli est dans cette émission. On parlera de Wimbledon. Là, ce sera à 11h30 et peut-être un remake de la finale légendaire de Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner. On va débuter cette deuxième heure avec cette citation de Winston Churchill qui a dit un jour: le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
RMC. Le bras de fer GG.
Chers supporters, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo.
Il veut taper la Messi direct.
Bah, il frappe en une. Il n'y a pas le temps dans la surface de réparation. Il y a 4 joueurs autour de lui.
La frappe de Messi et le but. Oh, la première occasion des Parisiens.
J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football.
Les matchs qui comptent, il disparaît complet.
On est en pleine décadence, c'est la déliquescence totale.
Messi qui ouvre le score, trouvé parfaitement par Nuno Mendes.
J'ai honte de parler comme ça de Léo Messi, mais c'est la réalité, le mec marche.
Concernant Léo, oui, je trouve que les sifflets sont très durs.
Quand on rencontre Messi, on a envie de bien faire. C'est un joueur fantastique et exemplaire sur le terrain.
Je veux dire une chose pour Messi, je pense, j'ai grand respect pour lui, mais si quelqu'un ne vous parle mal de Paris Saint-Germain, après, ça, c'est pas bien.
Bons amis, je lui ai dit reste bons amis.
Il était arrivé en grande pompe, mais en petites chaussures, le 10 août 2021, juin 2023, il quittait Paris par la porte de service, toujours avec ses petites chaussures. Cet après-midi, Lionel Messi va de nouveau croiser la route du PSG à 18h, Inter Miami Paris Saint-Germain, 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. 2 ans après son histoire contrariée avec le club parisien, Lionel Messi semble s'épanouir outre-Atlantique, mais depuis 2 ans, il ne cesse de glisser. Ici ou là, quelques tacles de son aventure parisienne, morceaux choisis. Je n'étais pas heureux. Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. Ces 2 années n'ont pas été agréables pour moi, etc., etc. Son passage est-il vraiment un échec total? C'est la question que je vous pose, mes GG. Dans le coin gauche, la team Oui. Représentée par Jérôme Pinault, Marion Bartoli et Cédric Emmons. Dans le coin droit, la team Non. Vous l'avez compris, il est tout seul.
Et coucou.
C'est Simon Dutin.
Non. Attends. J'ai changé un peu d'avis pendant la nuit, donc je suis avec Simon.
Ok, j'aime ça. Bravo, Marion. Dans le coin gauche, la team Oui, représentée par Jérôme Pinault et Cédric Emmons. Et Marion Bartoli, c'est non. Elle est avec Simon Dutin. Alors les amis, vous êtes tout de même un petit peu en retard, car on vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est du 77-23. 77%, oui. C'est un échec total. Vous commencerez, Simon et Marion. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial aux États-Unis, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les GG, salut à tous.
Salut Arthur.
Alors Lionel Messi a-t-il retrouvé le sourire à Miami?
Oui, 2 ans après son départ du PSG, Lionel Messi n'a pas changé. Sur le terrain, l'attaquant argentin marche toujours, mais brille aussi toujours autant. Élu meilleur joueur l'année dernière cette saison, 10 buts et 6 passes décisives en MLS. De quoi impressionner Olivier, résident d'Atlanta et fan de soccer.
Il a qualifié son équipe contre, c'était quoi, Palmeiras, c'est ça? Ils ont fait un super match, contre Porto ils ont gagné,
Et à coup franc qu'il a marqué, c'était quand même bon. Voilà, c'est quand ça reste Messi quoi. Techniquement, c'est le meilleur. Maintenant, je pense qu'on est passé à autre chose. C'est mieux pour PSG, c'est mieux pour lui. Il est heureux à Miami, le PSG est heureux sans lui.
Mais aux USA, l'adversité est clairement un cran en dessous. L'octuple Ballon d'Or est aujourd'hui décisif par le but ou la passe toutes les 65 minutes contre 97 minutes avec Paris. L'attaquant du PSG, Désiré Doué, reste admiratif.
On discute du match comme de tous les matchs. Après, personnellement, moi, c'est pas des retrouvailles. J'ai jamais joué avec Messi. Il a marqué l'histoire. C'est un GOAT. C'est un joueur qui m'a inspiré aussi quand j'étais petit et qui a inspiré toute une génération. Et je pense qu'on en parlera encore dans 20, 30, 50 ans, c'est sûr.
À son arrivée dans le championnat américain, l'Argentin remplissait les stades, ses maillots s'arrachaient chez les vendeurs spécialisés. Le prix des billets était multiplié par 4 à chacun de ses matchs à l'extérieur. Pour Mehdi, fan de l'Inter Miami, ça c'est du passé.
Moi je pense que l'effet Messi a expiré. Les matchs de Messi, même au Hard Rock Stadium, il n'est pas vraiment rempli quoi. Le premier match de la Coupe du Monde avec Messi et l'Inter Miami, ils ont dû vendre des tickets à 4 $ pour que les fans aillent voir le match. Donc je pense que l'effet a un peu expiré.
Lionel Messi va tenter ce soir face au PSG de prouver au monde entier qu'à 38 ans, il peut encore briller et qu'il est loin d'avoir dit son dernier mot.
Merci beaucoup Arthur Perrault, on te retrouvera tout au long de la journée pour suivre évidemment ce match entre le PSG et l'Inter Miami à Atlanta. Ce sera à 18h heure française. Alors son passage, le passage de Lionel Messi au PSG, est-il vraiment un échec total? C'est un 2 contre 2, vous l'avez bien compris. Venez régler cette histoire au 32-16. On vous attend évidemment, chers auditeurs. Simon, Marion, vous êtes en retard. Marion, je te donne la main parce que tu as changé d'avis donc dans la nuit.
Oui, j'ai réfléchi beaucoup cette nuit. Mais en fait, le problème, c'est qu'échec total, ça me gêne au vu de ses stats, tout d'abord. Et puis surtout, au vu de ce qu'il a produit en préparation pour la quête de sa vie, qui était d'aller chercher cette Coupe du Monde. Parce que oui, effectivement, sur la première année, ça a été une acclimatation qui était compliquée pour lui. On sait très bien qu'il n'est pas venu de gaieté de cœur au Paris Saint-Germain. On sait très bien qu'il est venu au Paris Saint-Germain parce que Barça ne pouvait plus payer son salaire et que donc, comme il devait absolument rester compétitif pour remporter cette Coupe du Monde, il ne pouvait pas partir d'un championnat européen. Paris n'étant pas loin, étant une ville agréable normalement pour lui et étant dans un championnat qui restait compétitif, il s'est dit, en plus étant le seul club à pouvoir payer son salaire, je vais tenter l'aventure. Mais Messi est un joueur et un enfant Barcelone. Il a fait toute sa carrière, toute sa vie à Barcelone, tous ses plus grands succès, il les a obtenus là-bas. Il fallait pas s'attendre à ce qu'il arrive au Paris Saint-Germain en disant, c'est un honneur pour moi de porter ce maillot. Alors après, que la première année, c'était assez catastrophique au vu de ce qu'il est capable de produire, mais en revanche, les premiers mois de préparation pour lui sur cette Coupe du Monde qui s'est déroulée en novembre, il avait des stats qui étaient absolument monstrueuses. Ensuite, quand un joueur qui a 35 ans, 36 ans remporte la quête de sa vie, qu'il est un épuisement mental après ça, et que effectivement, quand il est arrivé en janvier, ça a été rideau, c'est-à-dire qu'après ça, il n'y a plus rien eu. Oui, là-dessus, je suis d'accord, mais tu peux pas ne pas le savoir à l'avance. Tu peux pas être le PSG et te dire, à 35 ans, on prend Messi. Bah oui. Qui veut pas venir chez nous parce qu'on le sait, parce que c'est un joueur argentin, mais qui a été formé au Barça, qui vit, qui a respiré, qui a fait toutes ses plus grandes années au Barça. Et se dire, pour lui, ça va être un honneur d'arriver au Paris Saint-Germain. Surtout qu'en plus, n'oublions pas qu'à cette époque-là, le projet était quand même très tourné autour d'Mbappé. Il y avait Neymar qui était son pote, ok, dupe de Barça, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient tournées autour d'Mbappé. Quand on prend un champion pareil, avec les stats qu'il a eu et ce qu'il a obtenu, de se dire que le projet n'est pas autour de lui et de penser qu'il va s'acclimater en étant heureux d'être là-dedans, je pense que c'est extrêmement compliqué d'envisager cela.
Donc,
qu'il y ait eu des passages compliqués pour les supporters, ça je suis d'accord. Si effectivement on prend que le prisme de la Ligue des Champions en se disant finalement une réussite ou pas pour un joueur pareil, c'est de nous aider à faire gagner la Ligue des Champions, là-dessus je peux pas être plus que d'accord avec vous. Bien évidemment c'est un échec total quand t'es éliminé systématiquement avant les quarts de finale, mais si je vais donner une note globale à sa performance sur le PSG, je donnerais un 5,5-6/10.
Ouais, donc tu juges sur 3 mois.
Ouais. Et surtout,
juste sur ce qu'il a été capable de produire à un moment donné pour préparer une compétition.
Je pensais que tu allais parler économie, parce que économie du sport, l'arrivée de Lionel Messi, vente de maillot, là, j'aurais pu te suivre, mais sur le sportif, non, c'est un échec total.
Attends, sur les stats, sur le Barça, donc chaque année où il a pas gagné des champions avec le Barça.
Le foot, c'est un sport collectif à la base, quand même.
Chaque année où il n'a pas gagné des champions avec le Barça, c'est un échec, alors.
Mais non, mais c'est pas, il a pas la même implication.
Messi a toujours marché sur le terrain.
Jérôme Pinault.
Parce qu'il a pas réussi à faire passer un cap au PSG.
Là, on parle de Messi.
On attend quoi d'un joueur comme ça? Et on attend quoi d'un joueur comme ça? On attend quoi? On sait très bien qu'il marche et on sait très bien qu'il faut jouer pour lui. On va pas découvrir le jeu de Messi.
C'est pas de sa faute, c'est la faute des entraîneurs, du président. Mais lui, il est
reprochable. C'est pas sa faute, mais en tout cas, il voulait pas venir à Paris. Il est venu à Paris. Il a produit 4 mois qui ont été exceptionnels. Il faut quand même se rappeler que Dembélé, qui est en position éventuellement de gagner le ballon d'or.
Aujourd'hui, Marion, t'as dû passer une sacrée nuit. Parce que t'en as des erreurs.
C'est ce que j'allais dire. Je pense que l'air de Will Bledon se donne envie de défendre l'indéfendable.
Dembélé. Ousmane Dembélé qui est en position pour éventuellement gagner le ballon d'or, qui a joué 91 matchs avec le PSG. Il est quand même à 39 buts et 25 assists. Messi en a joué 75, il a mis 32 buts et 35 assists. Donc moi je veux bien, il a obtenu un ballon d'or en étant au PSG. Donc moi je veux bien que ça soit absolument un échec total.
Qu'il n'a
pas été capable d'apporter quelque chose à l'équipe, mais quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Donc non, ce n'est pas un échec total. En revanche, avec des champions, oui, c'est un échec.
Ok, Jérôme Pinault.
Bon, écoute, Marion a fait mon argumentaire, c'est tout l'inverse, c'est un échec total parce qu'il est venu au Paris Saint-Germain dans l'optique de préparer sa Coupe du Monde, de toucher le même oseille qu'à Barcelone, mais ça s'est vu et ça a été la Bérézina aussi en termes de gestion d'ego. Et quand un joueur comme Léo Messi, qui reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, arrive dans un club, on attend beaucoup plus qu'une préparation pour aller gagner un titre avec sa sélection nationale. Je suis désolé, Léo Messi, quand il arrive au Paris Saint-Germain, c'est à l'ajouter à Neymar et Mbappé pour aller chercher le titre ultime. La seule chose positive qu'a apporté Léo Messi au Paris Saint-Germain, c'est d'une part, et Cédric le dit très bien, c'est économiquement l'oseille. Il a fait remplir des stades parce qu'on vient voir Léo Messi. Et la troisième chose, et là peut-être qu'on va me tomber dessus, je pense que ça a été son passage et son départ, le déclencheur d'une nouvelle philosophie qui a aidé le Paris Saint-Germain à gagner la Ligue des Champions. Voilà, le reste, il est venu à Paris pour préparer pour sa tronche la Coupe du Monde qu'il voulait absolument gagner au Qatar. On rappelle qu'il était l'ambassadeur de cette Coupe du Monde au Qatar. C'est tout. Léo Messi, après, à côté de ça, il fait après cela des déclarations. Et Marion, tu m'enlèveras pas l'idée, et je suis sûr que tu es d'accord avec moi, que quand on est un champion tel que lui, quand tu fais un passage dans un club qui t'a permis de te payer au même niveau qu'à Barcelone, et voire mieux, et d'aller chercher ton titre avec ton équipe nationale, t'as pas tout donné, au moins après tu te tais, tu critiques pas ce qui s'est passé, et tu fais ton chemin. Là c'est très décevant.
Je pense que ce qui a été la goutte de trop pour Lionel Messi, ou en tout cas celle qui pour lui, le PSG a franchi le Rubicon, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de ces deux ans, et je donne la parole à Simon, il a dû s'excuser publiquement d'être parti en Arabie Saoudite et pour un sponsor, et le PSG a dit non, mais on va le suspendre, il va avoir une retenue sur salaire, et on fait pas, enfin je dis on fait pas c'est ça pas pour ça lui Messi. On fait pas ça à Lionel Messi, et exactement. Je pense que ça a été le truc où il s'est dit pour ok lui, pour le PSG, pour c'est... lui hein, je parle évidemment, mais c'est juste pour vous rappeler cet épisode. Simon Dutin.
Un échec total, donc, sur la base du fait qu'il a que Paris n'a pas remporté la Ligue des Champions avec Lionel Messi. Dans ce cas-là,
ça va au-delà.
Dans ce cas-là, Zlatan, c'est un échec total. Cavani, c'est un échec total.
Non, mais Zlatan, c'est
un échec total.
Il s'est engagé.
Il a bougé le maillot. C'est vrai, Zlatan, au niveau du pressing et du contre-pressing, c'était.
Non, mais il a fait autre chose. Il a fait autre chose.
C'est brutal, quoi. J'en ai des souvenirs. Vraiment, je suis effrayé. Lionel Messi, l'erreur, Lionel Messi doit quitter Barcelone. Marion l'a rappelé, il n'aurait jamais quitté Barcelone sans les problèmes financiers du Barça. T'es le Paris Saint-Germain, comment tu peux faire autrement que saisir cette opportunité?
Ils ont raison. Voilà,
le problème, c'est que c'était pas programmé, ça s'est pas fait dans le cadre d'une politique, élaborée et d'un plan, d'une construction. En effet, Marion l'a rappelé, il arrive dans une équipe où c'est déjà tout pour Mbappé. On se souvient que Mbappé, il a tardé à se féliciter publiquement de l'arrivée du meilleur joueur de tous les temps. De quoi parle-t-on? Moi, je me souviens encore de la présentation, parce que cet été-là, il y a aussi Donnarumma, Ramos, Wijnaldum qui arrivent. Moi, je suis pas supporter parisien, mais j'ai eu des frissons lorsque j'ai vu la cérémonie de présentation de ces joueurs-là. On avait terminé par Messi. Bon, on semble avoir découvert à Paris que Messi marche sur le terrain.
C'est voilà. Ça,
on semble avoir découvert que il faisait pas les efforts, les replis défensifs. Demandez à Pep Guardiola qu'il l'a eu à son prime. Est-ce que Messi courait? Non. Tu as Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire. Tu construis ton équipe autour de lui. Il y avait un problème structurel à Paris puisque Mbappé avait déjà pris trop d'importance dans ce vestiaire. Mais au final, le jugement, il est aussi dur parce que les attentes était forcément très élevé. C'est, encore une fois, le plus grand joueur de l'histoire, le plus grand génie de l'histoire du football. Et moi, je considère qu'on a vu le vrai Messi à Paris. On l'a vu, dès que c'est un mec, dès que le ballon sort de son pied, même si la passe va à 2 mètres de lui, il se passe quelque chose. C'est magique, c'est différent. Il a fait 16-16 la deuxième saison, 16 buts, 16 passes décisives. C'est arrivé 2-3 fois dans l'histoire de la Ligue 1. Alors pour Messi, c'est une saison catastrophique. Pour n'importe qui d'autre, c'est une saison légendaire.
Réussi.
Donc je ne comprends pas.
Classe, le PSG, au niveau du joueur,
le PSG a traité Lionel Messi, qui est le roi du football, comme un valet. Ils ont réussi à suspendre pour discipline le plus grand joueur de tous les temps. Je trouve que Paris s'est déshonoré dans cette histoire. Qu'il y ait eu.
Enfin, quand le PSG se fait marcher dessus, si l'institution se fait marcher dessus, on dit rien. Mais c'est pas bien. Et quand ils font quelque chose, c'est pas bien non plus.
Mais s'il s'en fait marcher dessus, il est venu pour un projet personnel, pas pour un projet de club. Il est venu pour préparer sa Coupe du Monde. Il est venu parce qu'il a
continué à jouer.
Non, mais oui, parce qu'il était obligé de rester dans un championnat européen et il voulait prendre encore un peu plus d'oseille. Ça, on va pas le critiquer. La raison d'en prendre. Mais il n'est pas venu pour se fondre dans une équipe et amener le PSG où ils auraient dû être.
Ce qui est, ce
et
qui
au
est
Barça,
plus,
ils ne se fondaient pas dans une équipe au Barça. Non mais attendez.
Non mais au Barça, il y a un projet autour de lui. Okay, il arrive au PSG, il n'y a pas de projet autour de lui.
Mais si c'est un grand champion. Pardon, mais s'adapter de quoi Tu parles du plus grand joueur de tous les temps, qui a une équipe.
Attends Marion, je veux juste dire un truc. Quand tu rentres dans un collectif, tu es obligé de t'adapter aux autres. C'est une somme d'individualité qui forme une équipe.
Mais pas sur un joueur comme ça. Mais pas sur un joueur comme ça qui a pris des habitudes depuis 15 ans. Mais pas sur un joueur comme ça qui a pris habitude depuis 15 ans. Tu peux pas demander à Messi
mais
de
Marion,
dire
maintenant je vais cirer les pompes à Mbappé à chaque fois que je vais rentrer dans le vestiaire.
Tu peux pas demander au club de s'adapter à un joueur tout le temps.
C'est la gestion de son cas. Je suis complètement d'accord avec Simon. La gestion de son cas était catastrophique.
Mais ça, je suis d'accord avec vous.
On ne peut pas ignorer Marion que lorsque l'on va changer de club, il est entouré de je sais pas combien d'agents. Alors c'est bien beau de parler d'oseille, de primes, de je vais avoir des contrats là-bas, donc faut que j'y aille. Faut aussi. Enfin, il est pas venu sans savoir qu'il n'était pas au cœur du projet. On n'a pas pu lui dire, viens, tu seras au cœur du projet. Une fois arrivé, il n'y est plus. Il le savait pourquoi il venait. Il faut pas me dire, il est arrivé là et finalement,
je pense qu'on lui a pas vendu comme ça.
Ou alors, c'est
je
pas la chips la plus croustillante du paquet. Il s'occupe que de l'oseille et de la babale. Mais j'y crois pas non plus.
Je pense pas qu'on lui ait vendu comme ça.
Et ce qui est, en plus, ce qui pour moi détériore l'histoire aussi de Messi, on parle toujours du présent, du repas, mais ce qui est important c'est la digestion. La digestion c'est quoi? C'est le temps après, et on peut pas dire qu'il était très à la hauteur du géant du football malgré sa taille par ses déclarations en vis-à-vis du PSG.
Marion lui a pas vendu, il a été opportuniste. Simon le dit très bien.
Quand il arrive, c'est un coup qu'ils font.
Ils sont sur la ligne de départ. Ils ont la puissance financière.
Le coup marketing a été absolument incroyable.
Ça on l'a dit, mais je pensais que t'allais parler de ça. Pas de sport.
On n'est pas en train de dire que Léo Messi n'est pas un très très grand joueur. On est en train de dire que son passage au Paris Saint-Germain.
C'est le plus grand joueur.
C'est une question d'appréciation, tu juges, c'est dans l'émotion, c'est de l'émotion.
Non mais encore une fois, c'est pas comme s'il avait dit Paris est un petit club, Paris était pas fait pour moi. Il dit bon voilà, j'ai pas été très heureux. Il est arrivé, il était encore enfant à Barcelone, il n'a connu que ça. Enfin je veux dire, n'importe lequel d'entre nous.
Oui, il est parti de la famille, il a d'accueil quoi.
Tu te déracines. Bon voilà, tu as le droit de dire que c'est pas la plus belle expérience de ta vie. Je veux dire, on en est à se dire à lui reprocher de dire de ne pas dire le PSG le plus grand club dans lequel j'ai joué. Ah bah, ce serait un petit peu compliqué.
Non mais c'est
pour
pas
lui
ça
de,
Simon
de dire
c'est,
ça.
tu peux ne pas dire ça, mais tu peux aussi ne pas dire j'ai pas été heureux, j'ai pas été au centre du truc, j'ai manqué, enfin
j'ai pas fait l'impression qu'il ait fait des déclarations ordurière ou tu vois
non,
si grave que ça.
C'est pas genre le Messi,
des déclarations construites de Messi.
Vas-y Marion, après il y a Mickaël qui nous attend au 32-16 rapidement.
Je pense que c'est important de rappeler deux éléments, puisqu'on a eu quand même la chance d'interviewer Neymar, qu'on lui a parlé en face à face, et il y avait aussi justement ce problème avec Kylian Mbappé, etc. Je pense que au départ, Messi est arrivé, oui, avec pour son projet bien sûr, mais en se disant finalement je retrouve quelqu'un que je connais très bien, Neymar, avec qui j'ai joué, où ça s'est très bien passé, et Kylian Mbappé, je pense qu'il le respectait au départ, en se disant ben, finalement j'arrive dans un projet où peut-être ça va pas être le Barça, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose, et je pense qu'on peut arriver à bien s'entendre. Et je crois que par la gestion à la fois du club et par la gestion aussi la dynamique du vestiaire, on va dire, sans rentrer dans les détails, je crois qu'il a été extrêmement déçu. Et qu'à partir de ce moment-là, oui, il a coulé. Et qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, bah, finalement, vous savez quoi? Vous me l'avez fait entre guillemets à l'envers. Ben, je vais me servir de vous parce que oui, là, j'ai la Coupe du Monde qui est pour moi la quête d'une vie parce que j'existerai pas en Argentine tant que j'aurais pas gagné la Coupe du Monde. Parce que il y a Maradona qui l'a gagné et que si je la gagne pas et que si je la gagne pas, j'y arriverai pas. Mais au départ, il n'est pas arrivé avec ces intentions-là. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est très important quand on a interviewé Neymar. Au départ, ça se passait bien avec Mbappé. Et ça s'est vraiment détérioré au fur et à mesure. Et je crois que pour Messi, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Mais j'aimerais quand même reparler encore une fois parce que quand même le foot reste un sport de stats. De août jusqu'à novembre, il était quand même à 12 goals, 14 assists en 19 matchs. Je suis désolé, c'est des stats, mais que quasiment tout le monde aimerait l'avoir. Donc me dire qu'il a pas mis un pied devant l'autre et qu'il a été absolument en dessous de tout et qu'il a pas été capable de rien faire sur le terrain, je trouve ça quand même un tout petit peu fort.
Michael est avec nous, 32-16. Bonjour Michael.
Michael. Il y a beaucoup de passion.
Quand on parle de Lionel Messi, je savais que ça marcherait. C'est pour ça que j'ai fait ce débat, parce que je savais que tout de suite, je lance la grenade et ça prend tout de suite. Michael, ton avis?
Eh ben, mon avis, c'est un échec pour Paris et une réussite pour Messi, hein. Il est venu à Paris pour encaisser du pognon, préparer sa Coupe du Monde, sans se soucier de Paris, parce qu'il n'en avait rien à faire. Il a toujours dit qu'il voulait rester à Barcelone. Entre guillemets, s'il avait voulu rester à Barcelone, il aurait pu rester à Barcelone, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Si c'est des questions d'argent, c'est pas dur, hein. Son salaire, ben, il rachète des maillots. Moi, je rachète 100 000 maillots tous les mois. Et puis voilà, Barcelone a de l'argent pour payer son salaire. Donc ça, moi, je préfère...
Excuse-moi, Barcelone l'aurait gardé s'ils avaient pu le garder. Il n'y avait aucune solution.
Il a préparé sa Coupe du Monde. Ça a marché. Il a encaissé du pognon. Il a eu la Coupe du Monde. Paris, c'est un échec. C'est un échec. Paris n'a pas évolué avec le passage de Messi. Absolument pas.
Ok. Bah écoute, merci, Michael.
Et il est parti à Miami pour le pognon aussi, hein. C'est un mercenaire,
voilà.
Ce monsieur.
Point final.
Oh, c'est sévère, mercenaire, c'est sévère.
Bon, en tout cas, il est parti retrouver des copains, hein. Luis Suarez. Bah,
Messi
et
a toujours déclaré qu'il voulait terminer sa carrière en jouant à Miami. Il a toujours déclaré ça, donc partir pour l'argent. Je pense que là encore une fois, Michael. Et puis, si surtout pour qu'un joueur puisse jouer au foot, il faut que ce soit lui-même qui paye son propre salaire. Je pense que la dynamique, effectivement, et l'économie autour du football sera un petit peu différente.
Merci, Michael, d'avoir composé le 32-16. Merci, les GG, pour ce débat enflammé. Alors, nous sommes partis à 77-23. Sachez que nous sommes désormais à 78-22. Voilà,
c'est gagné.
Son passage au PSG est un échec total.
Marion elle s'est bien battue, mais elle reste au fond du court.
T'aurais bien dû réfléchir cette nuit.
Au fond du court, balle un peu haute.
Je reste sur ma position. Y a pas
mais franchement, elle est montée à la volée.
La prochaine fois, elle va faire autre chose la nuit.
C'était beau. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Nous sommes à une semaine du Tour de France. Est-ce que ça va être un Tour de France des suspicions avec Tadej Pogacar, oui ou non, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport, toujours avec Simon Dutin, Cédric Emans, Marion Bartoli, Jérôme Pinault. À partir de 11h, on parlera de nouveau de cette finale du top 14 magnifique. On a évoqué le Stade Toulousain à 9h, à 11h. L'UBB, est-ce que cette défaite est plus traumatisante que celle subie l'année dernière, cette humiliation en 2024? Oui ou non? Vous me direz ce que vous en pensez. Les GG, évidemment, vous entendrez les principales réactions bordelaises. Mais tout de suite, le tour. Car le week-end prochain, c'est le grand départ du Tour de France 2025 à Lille. Évidemment, une grande boucle à suivre en direct, en intégralité sur RMC avec toutes nos équipes autour de Christophe Cessieux. Il y aura Jérôme Pinault, il y aura Pierre-Yves Leroux qu'on va accueillir dans quelques instants. Alors, à une semaine du départ, sachez que la cellule d'investigation de Radio France a sorti une enquête autour de Mauro Gianetti, le manager de l'équipe UAE depuis 2017, l'équipe du numéro 1 mondial Tadej Pogacar, évidemment. Une enquête qui fait la lumière sur le passé trouble de l'ancien coureur suisse où son nom revient régulièrement dans des affaires de dopage. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste vélo, Pierre-Yves Leroux, en direct des championnats de France avec Jérôme Pinault. Salut Pierre-Yves.
Salut JC, bonjour à tous.
Salut Pinault.
Alors c'est une enquête dont se serait bien passée l'équipe favorite du prochain Tour de France. Hein.
Oui, bah forcément. Après
dans le cyclisme. Qui dit domination sous-entend rapidement suspicion. Hein. C'est l'histoire de ce sport. C'est un boulet qu'il traîne particulièrement depuis les années noires de l'EPO. Pogacar n'échappe pas à la règle et n'est pas aidé par certaines personnes de son entourage. En fait, il n'y a rien de nouveau à ce niveau dans l'enquête de notre consoeur. Parce que dès 2020, on a tous souligné le pédigré du manager général de son équipe UAE, Mauro Gianetti, qui est passé tout près de la mort en 98 pour s'être injecté du PFC, du perfluocarbure, afin d'améliorer l'oxygénation du sang sans changer le taux d'hématocrite. Mais ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est la démonstration de tout ce qui est mis en place par Mauro Gianetti pour réécrire l'histoire. On découvre par exemple que tout est fait pour réduire au silence certains témoins. C'est le cas du docteur Gérald Grémion, qui était chef du service de médecine sportive du CHU de Lausanne, qui avait porté plainte pour suspicion de dopage contre Gianetti en 98. Et le médecin, il sera obligé de négocier son silence pour pas conserver une dette de 3 millions de francs suisses de dommages et intérêts. Sa page Wikipédia est, d'après notre consoeur, régulièrement corrigée également pour que tout son passé trouble jusqu'à son arrivée en 2017 dans l'équipe UAE soit le moins visible possible. Donc c'est une suspicion qui est relancée à 8 jours du départ du Tour. Ça surprend pas le peloton, qui est habitué à cette petite chanson et qui est habitué aussi à l'alimenter, il faut le dire quand même.
Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, tu restes avec nous pour ce débat et cette question. Mais GG, pour vous aujourd'hui, à quelques jours, à 6 jours maintenant du début du Tour de France, est-ce qu'il faut s'attendre au Tour de France des suspicions? Plutôt oui, plutôt non. Cédric Emans?
Oui, malheureusement.
Oui, malheureusement. Jérôme Pinault?
Non.
Non. Marion Bartoli?
Non.
Non. Simon Dutin.
Oui ou non, ça ne change rien à ce que je pense. Voilà.
Bah vas-y, dis-nous, tu commences.
Ouais, parce que moi j'en ai ras-le-bol, de toute façon, le tour n'a pas commencé, on se demande si Pogacar est dopé ou s'il y a un système élaboré de dopage au sein de UAE, puisque nos confrères de notre consoeur de France Info sort cette enquête. Voilà, moi je suis comme Saint Thomas, je préfère attendre l'épreuve et puis me désoler après, mais j'ai pas envie de me gâcher le plaisir, mon imaginaire. Voilà, le vélo, le Tour de France, c'est mon grand-père qui m'emmenait au Tourmalet quand j'étais jeune. Alors souvent ça me gonflait, hein, mais maintenant c'est les plus grands souvenirs de mon enfance. Donc j'ai goûté au cyclisme et cette passion, elle a grandi dans les années 90. Miguel Indurain, Claudio Capucci, Tony Rominger, des mecs qui se sont jamais fait, en tout cas, attraper. J'ai été catastrophé lorsque toutes les affaires sont sorties. Et franchement, ça m'agace, ça m'irrite lorsque des gens qui aiment pas ça, qui dénigrent un petit peu ce sport, qui ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. J'en ai ras-le-bol, voilà, le sport des dopés, Pogacar, il a un moteur dans son vélo, ça me gonfle et j'ai envie, voilà, c'est de la candeur, hein, je le reconnais, j'ai envie de croire que c'est possible d'atteindre ce genre de performance sans se doper. Alors oui, il y a eu les Bjarneris, il y a eu les Ulrich, il y a eu les machins, mais si je dis oui ou si je dis non, indifféremment, c'est qu'en fait tu pourras pas empêcher les suspicions. Je vois pas pourquoi on en entendrait encore plus cette année que les autres années. Je me souviens plus où c'était. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu sais, le contre-la-montre où Vingegaard explose Pogacar, Jérôme. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Moi, la première édition du Tour de France que j'ai eu le plaisir, l'honneur, la fierté de couvrir, c'était en 2013. Chris Froome, il fait une démonstration au Mont Ventoux. Alors nous, on faisait les reportages pour la chaîne de télé, les duplex. Et le soir, on se fait un petit peu le replay. Il y a un consultant du diffuseur qui avait dérapé en direct, qui avait dit ouais, c'est quand même bizarre cette performance. Immédiatement, ils avaient dû sortir l'extincteur, tu vois, parce que tu pouvais pas. Mais tu sentais que tout le monde en était persuadé. Bon, moi, ça me gâche le plaisir. Je pense que il faut arrêter, voilà. Donnez-nous des preuves, apportez-nous des preuves, faites votre boulot et ensuite on discute.
Moi, je suis fan de vélo, je suis admiratif de tout ce qu'ils sont capables de faire sur un vélo, la dureté de ce sport. Mais malheureusement, l'histoire fait que les grands derniers champions ont été pris. Alors, sortir avant pour remettre de l'huile sur le feu, c'est pas très bien, ça nuit à ce sport qui, quand on regarde le Tour de France, qui est un des plus grands moments de sport dans la dureté, la joie, tout ce que ça déplace. Mais j'ai toujours ce petit refrain, cette petite chanson qui me dit, mais
Est-ce qu'il est clean? Est-ce qu'il est clean? Et c'est ça qui gâche mon plaisir parce que je regarde le Tour de France, je vis Tour de France, j'adore ça, mais j'ai cette petite musique dans ma tête qui me dit attendons quelques mois après l'histoire.
Ok, Jérôme Pinault.
Ouais, Cédric, juste dans l'histoire la plus récente, mais ça fait plus de 10 ans que le vainqueur du Tour n'a pas été inquiété par une affaire de dopage quand même. Hein. Le temps tourne, le temps passe et depuis... Alors la suspicion, elle est toujours présente, évidemment, c'est tellement difficile. Et dès lors qu'il y a quelqu'un qui domine, on le suspecte. Et ce sport est gratuit, ce sport est accessible et ce sport est facilement critiquable.
Jérôme, pardon, mais regarde Armstrong, combien de temps après il a été pris.
Bien sûr, parce qu'Armstrong était dans une époque et très protégé par les instances. Je te dis pas que c'est pas possible aujourd'hui, je te dis juste que sortir ce genre d'affaires là maintenant, de parler... d'un manager qui a couru dans les années 90. Il faut aller voir partout, du coup. Si, au départ du Tour de France, je pense que 80% des managers des équipes ont couru dans les années 90, ont fait partie, en tout cas, de ce milieu-là dans les années 90. Alors, ils ont tous été baignés dans telle ou telle affaire, et du coup, faut tous les virer, pour le coup. Il faut pas faire une enquête à charge contre Pogacar via son manager qui a eu des soucis. Je veux dire, c'est petit, ce genre de reportage, c'est tellement facile à encore une fois, à 10 jours de Tour, faites-le l'hiver, parlons de ça l'hiver, faites une vraie enquête et amenez-nous des preuves, mais pas là toujours à 10 jours du Tour. Moi, ça me gêne pas, au contraire, j'ai toujours défendu un sport propre et que j'en avais ras-le-bol des tricheurs dans mon sport, mais là je trouve ça tellement navrant. Enfin, s'il y a des soucis de contrôle positif avec Pogacar, on analyse ses données, on analyse ses watts, oui, il y a des suspicions. Et je le comprends, c'est un coureur qui domine tout, mais à la fois Vingegaard a aussi dominé Pogacar il y a quelques années, mais amenez-nous des choses concrètes et pas une enquête sur un manager qui a couru. Dans les années 90, on le sait maintenant, ils ont tous fait des bouquins, le dopage était quelque chose
institutionnel.
Donc ouais, voilà, alors si on veut pas ces gens-là, on leur dit, on veut plus de vous, faut pas venir. Mais faut pas faire une enquête sur Pogacar et sur Giannetti à 10 jours du Tour. Un truc pseudo où il a acheté un juge. Enfin, on va où là? Enfin, c'est juste incroyable de pouvoir parler
mais
que de ça pour le
en
Tour.
En décembre, elle intéresse personne.
Eh ben justement, alors on veut faire du sensationnel, mais le problème c'est que le sensationnel, il faut pas essayer d'exister parce qu'il y a le Tour, il faut le faire plus tôt. C'est sensationnel s'il y a quelque chose de concret et qu'on arrive à une condamnation, et peu importe l'époque, je pense, parce qu'on va blanchir le sport, et tant mieux, c'est ce que moi je souhaite. Mais sortir ça, laisser là en suspens et dire bon bah il y a Giannetti, il y a aussi Machin, et il y a dans d'autres équipes, quand Contador gagnait le Tour, c'était bien riche le patron. On n'a pas fait, on a fait quoi avec Bernry? On sait qu'il s'est dopé, Bernry. On a un paquet de, nous en France, on a, je pense que Marco m'en voudra pas de parler que Marc Madiot, qu'à l'époque, dans les années 90, lorsqu'il était manager, il a pas tout maîtrisé. Mais c'était comme ça. Donc on va pas les punir maintenant d'être dans une voiture ou à la tête d'une équipe parce qu'ils dominent.
Ça, c'est
si
vrai,
Pogacar ne domine pas, on fait pas ce procès-là, Giannetti, c'est ça qui m'embête.
Ça, c'est vrai aussi.
M'embête,
mais
moi,
la question, c'est de savoir si ça va coller au Basque.
Non, tu verras, j'y sais. Le Tour de
Pogacar
France
est dû à eux, tout pour
le Pogacar, ils ont, les godasses et les semelles de Pogacar et dû à eux, elles sont pleines. Hein. Ils entraînent déjà plein les godasses depuis qu'ils dominent. Ça gêne. C'est un sponsor étatique. C'est un sponsor qui a avec les droits de l'homme un peu ce pays-là bafouille un peu tout. C'est un Pogacar qui domine tout avec des données incroyables. Et donc eux, ils en ont plein les godasses des affaires et des suspicions. Donc ça va pas être plus. Et le Tour va s'élancer. Et je dirais une chose, et là je suis d'accord avec Simon. Bah quelque part, moi, mon plaisir, ma naïveté, ça me fait dire le bonheur et la joie du Tour et va repartir et on va s'extasier devant les performances, et pour peu qu'un Français nous gagne une ou deux étapes, on va trouver ce Tour génial et tout ça sera oublié.
Marion Bartoli.
Moi, je suis complètement d'accord avec Simon et Jérôme. Moi, ce qui me gêne en fait, c'est que on veut pas dire ah oui mais Pogacar est dopé, mais on nous met tellement de trois points de suspension qu'entre guillemets, et faites le lien, vous n'êtes pas débile, s'il vous plaît, faites le lien, parce que là on vous apporte entre guillemets toutes les preuves. Alors on n'a pas de preuves pour Pogacar, mais on vous met un contexte pour vous expliquer, parce que comme vous êtes à moitié demeuré, il faut quand même vous expliquer, et donc faites le lien, donc forcément il est dopé, et ça me gêne.
Ils vont pas le faire, ils ont pas la diffamation, Marion, c'est pas possible.
Exactement, donc en fait comme ils peuvent pas accuser sans preuve, ils nous sortent à quelques jours du début du Tour de France cette affaire en disant oui mais vous voyez, ok, il gagne tout, mais bon, vous voyez bien, vous avez bien compris, il est forcément dopé. Et ça, ça me gêne profondément. Parce que, en fait, c'est remettre en question systématiquement maintenant, désormais, les performances d'un athlète qui sont effectivement exceptionnelles. Mais Jérôme, tu le confirmes, Procacciar est de toute façon un ovni et de toute façon exceptionnel. Voilà. Et donc, de le remettre comme ça systématiquement en question en disant, oui, bah alors vous allez regarder le Tour de France à la télévision, mais soyez pas dupes, hein. C'est pas normal ce qu'ils font. En fait, c'est vraiment jeter l'opprobre sur quelqu'un sans avoir aucune preuve et en essayant de tourner autour, en remontant, en remontant, en remontant, en remontant, pour dire, oui, bah alors on n'a pas de preuve, mais bon, comme on a creusé et qu'on a fait une immense enquête, bah voilà ce qu'on vous sort. Alors qu'en fait, toutes ces informations, on les connaissait. Donc je suis désolée, mais on nous apprend absolument rien.
Je tiens juste à ajouter une petite précision. On attaque beaucoup, beaucoup Tadej Pogacar parce qu'il gagne. Son rival, le plus proche de lui, équivalent Kikiné cet été, s'appelle Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, il est dirigé par un monsieur qui s'appelle Richard Plugge. Richard Plugge était dans l'organigramme de l'équipe Rabobank, sponsor qui revient sur le maillot de cette équipe cette année autour. Et c'était pareil. Chez Rabobank, c'était dopage organisé. Donc on fait quoi du coup ? Pourquoi là moi je défends personne. Mauro Gianetti est une personne humainement que j'apprécie, parce que quand j'étais dans le dur, bah c'est le seul manager de tout le peloton qui m'a appelé pour me prendre mes nouvelles. Mais s'il a fait de la merde par le passé, oui, il en a fait, il est condamnable de ça. Mais maintenant aujourd'hui en tant que manager, il faut que tout le monde soit sur le même piédestal. Alors du coup, on juge tout le monde et c'est pas mieux d'un côté que de l'autre. Donc soit on dit bah c'était le passé. Et ils ont le droit d'avoir une seconde chance. On l'a parlé pour Pogba, bah pourquoi pas être manager d'un coureur phénoménal et donc ils vont gagner. Ou alors, bah il y a plus rien qui tient et on vire tout le monde et on dit bah on veut plus personne qui ait d'affaires de dopage dans le cyclisme. Je peux vous dire qu'on va être beaucoup moins.
Hein. Ok, voilà, tout est dit. Et Jérôme Pinault avait beaucoup de choses sur le cœur à nous dire visiblement ce matin dans les grandes gueules du sport. On va retrouver aux Herbiers, lieu du championnat de France de cyclisme aujourd'hui. Pierre-Yves Leroux, Pierre-Yves, évidemment, c'est un moment toujours important, hein, juste avant le Tour, savoir qui va avoir l'honneur de revêtir le maillot tricolore durant le Tour de France. Qui sont les favoris sur ce parcours?
Bien, j'ai envie de dire les jeunes, parce que Alaphilippe est pas là, Christophe Laporte n'est pas là, dans les plus expérimentés, et on l'a vu dès l'année dernière, Paul Lapeyra à 23 ans était allé chercher le titre de champion de France, il sera encore là, il peut pourquoi pas faire le doublé, ça n'a pas été fait depuis 31 ans depuis Jackie Durand, donc c'est pas une petite mission. Et puis il y a d'autres concurrents que vous connaissez comme Kevin Vauclin qui a été très bon sur le Tour de Suisse, il y a des garçons un peu plus sprinteurs qui sont capables de passer ce mont des Alouettes qui est la difficulté du jour. Il faudra le passer 13 fois comme Paul Magnier ou Paul Pinouette qui peuvent pourquoi pas réussir à s'imposer. Et puis on pense à Romain Grégoire. Il y a vraiment un plateau très ouvert et surtout un très très beau circuit, très difficile, il va faire très chaud, donc il va falloir être malin, s'économiser au maximum, se cacher un petit peu peut-être pour réussir à lever les bras tout à l'heure aux alentours de 17h.
Pierre-Yves Leroux et Jérôme Pinault aux commentaires de ces championnats de France aujourd'hui. Merci beaucoup, Pile, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Les GG contre-attaque, vous nous avez proposé 4 très bons débats ce matin. Il y avait Intervide. Non, ça c'était juste pour la vanne. Il n'y avait pas vraiment Intervide.
C'est Intervide qui a gagné.
On ait ce débat un jour.
Oui, on aura ce débat, promis. Non, mais il y avait de la Formule 1 avec Verstappen, Mercedes, la Coupe du Monde des clubs, c'est nul. Où est Alaphilippe, justement, dans ces championnats de France, ou encore Louis Biel-Biarré aurait-il dû jouer cette finale du top 14? Vous pouvez encore voter quelques instants. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49 de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, on ouvre la page bordelaise. Désolé, supporters bordelais, mais on va revenir évidemment sur cette finale du top 14. Est-ce que cette défaite est plus traumatisante qu'en 2024? Je vous poserai la question et vous entendrez les principales réactions des hommes de Yannick Bru. Toujours avec Marion Bartoli, Cédric Aymand, Jérôme Pinault, Simon Dutin. Tout de suite, c'est à vous de jouer, mes GG.
RMC, les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin, assez surpris par la dernière place. Tu vois, j'aurais pas misé là-dessus. C'est Cédric Aymand, ce que l'on adore pourtant dans cette émission. Il nous a proposé un très bon débat sur Louis Biel-Biarré, ce qu'il aurait dû jouer cette finale du top 14, lui qui avait subi une commotion cérébrale. Yannick Bru nous avait dit l'année dernière, j'essaie de te faire vivre un peu le débat, hein, parce que ça marchera pas. Il avait dit la semaine dernière, non, il ne pourra pas jouer. Finalement, les tests au vert, il a joué quelques minutes. Et ça s'est pas très bien passé. 16% pour ce débat. Je suis très étonné.
Quatrième place donc.
Oui, je crois que c'est la quatrième place.
Bah, c'est une première.
T'aimes bien la
cuillère de bois, là. Ouais, mais ouais, pour manger de la confiture.
Où est Alaphilippe? Bah, on ne sait pas et on ne répondra pas à cette question. 22% pour toi, Jérôme Pinault, troisième. On t'embrasse. Bravo, Jérôme, d'avoir participé. 24% pour Verstappen, Mercedes. Est-ce que ça peut être un mariage gagnant-gagnant? 24%. T'es deuxième, Simon.
Ouais, contrat rempli. On finit pas dernier, on ne gagne pas. Voilà, on est tranquille.
Avec Interville, t'aurais gagné avec Interville.
C'est pas mal. Il a eu peur de devoir te dire 5 minutes sur Interville. Mario Bartoli est la grande gagnante. 38%. Vous voulez parler de cette Coupe du Monde des clubs avec notamment.
Ah ben là, je suis étonné.
Moi aussi. Mais Jürgen Klopp qui a déclaré hier, et c'est peut-être pour ça que les auditeurs veulent en parler. Je ne sais pas si vous avez vu cette phrase et je te lance, évidemment, Marion. Il a déclaré, c'est la pire idée jamais mise en œuvre dans le football. Voilà ce qu'a dit l'ancien entraîneur de Liverpool au sujet de cette Coupe du Monde des clubs. Marion, tu voulais donc nous en parler ce matin, on t'écoute.
Alors, je suis complètement alignée avec Jürgen Klopp. Pour moi, je comprends pas comment on peut avoir des idées pareilles, en fait. Déjà, les saisons pour les footballeurs sont plus qu'à rallonge. Ils sont arrivés tous complètement rincés. On voit très bien que le niveau des matchs est vraiment pas flamboyant. Mais surtout, l'organiser aux États-Unis. Mais s'il vous plaît, mais comment, qui a pensé que des Américains étaient intéressés par ce qu'ils appellent là-bas le soccer, qui est pour nous le football en Europe. On a très bien vu, et ça a été dit d'ailleurs par Mehdi tout à l'heure sur un des auditeurs sur l'Inter Miami, ils étaient obligés de brader complètement les places pour le premier match de l'Inter Miami pour pas se retrouver avec l'Hard Rock Stadium complètement vide. Le seul club qui est arrivé à vendre ses places sur ses matchs de poule, c'était le Real Madrid, qui est arrivé à faire quasiment sold out sur ses 3 matchs de poule. Tout le reste, enfin, qu'on a quand même assisté à un match avec 70 personnes dans un stade. 70 personnes dans un stade. Je pense que sur n'importe quel match aujourd'hui, un dimanche, sur un match de district ou un match régional, on a beaucoup plus de personnes que ça pour assister à des matchs en France. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, je veux bien que Gianni Infantino ait pensé qu'encore une fois, ça allait être une manne financière et qu'encore une fois, le foot ne servait qu'à faire de l'argent et des dollars. Mais là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens du début jusqu'à la fin. Déjà, la compétition, on n'y comprend rien. Qui est qualifié, comment est qualifié, combien il y a de matchs. Les États-Unis étaient un pays absolument immense au travers. Les États-Unis faire des déplacements pour arriver à jouer les matchs, ça commence à Los Angeles, ça finit à New York, enfin bon, ça dure un mois, ça dure une éternité en plus. Personne ne regarde. Il y a le Tour de France qui va commencer en France, il y a Wimbledon qui a commencé, il y a personne qui va regarder aux États-Unis, ça intéresse personne. Et je suis désolée, on nous pond ça. Voilà. Donc je n'adhère pas du tout. Je suis complètement outrée par cette compétition. Alors je sais pas ce qu'en pensent mes copains, mais moi je trouve que c'est vraiment la pire idée.
Alors moi j'aurais voté pour toi.
Cédric. Hein. Cédric, tu penses quoi de la compétition?
Ah non mais je m'en fous, contre fou et recontre fou. J'ai pas vu un match, ça ne m'intéresse pas. Je suis plus à réfléchir comment on arrive à user encore plus les joueurs. J'ai lu, ils jouent une fois sur herbe, une fois sur un synthétique, des terrains catastrophiques, les matchs sont sans enjeu, ils n'arrivent pas à se faire 3 passes. Moi, j'arrive pas à rentrer dans cette compétition et je me dis dans ce sport, mais là on est vraiment dans le sport business, quand est-ce qu'on va penser à la protection des joueurs? Ça devient hallucinant. Alors là, c'est du fric pour faire du fric. Alors,
et puis ils vont même plus avoir de pré-saison, ils vont même plus avoir de semaine off avant de faire la pré-saison.
Je peux prendre le contre-pied, les amis. J'ai juste un problème avec la date et le lieu, mais sinon, je pense qu'elle a tout son sens, cette compétition. Si elle est placée
tu veux la placer quand dans le calendrier?
Une coupure hivernale lorsque beaucoup de pelouses en Europe sont impraticables et faire ça dans un pays où il fait bon vivre. Alors on ira chercher l'oseille, mais c'est pas grave. Mais
tu rajoutes des matchs.
Mais tu rajoutes. De toute façon, ils vont les faire faire. Je veux dire, ces matchs-là, ils les joueront parce que cette compétition n'est pas prête de disparaître. Et de voir les meilleurs clubs du monde s'affronter et voir d'autres clubs, voir les Européens contre les Sud-Américains dans un vrai tournoi, pour moi, ça a du sens dans la mondialisation du football et surtout dans un monde du football où les clubs sont devenus presque aussi, voire plus importants que les sélections nationales. Moi, ça me choque pas. En revanche, je te rejoins, Marion, sur le lieu, la chaleur et la protection des joueurs. Le PSG qui va, s'il va en finale, jouera le premier match championnat à peine 3 semaines après la fin de la compétition.
Mais ils n'ont qu'une saison, ça tombe bien,
ils jouent contre Nantes. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les Nantais.
Le match est décalé d'ailleurs. La première journée,
Le sens, Marion, je ne sais pas si tu me rejoins, le sens de faire une Coupe du Monde avec
plus de clarté, on explique mieux aux gens qui jouent cette compétition et de voir des équipes africaines, sud-américaines et européennes, américaines s'affronter, les grands clubs dont on parle, puisque aujourd'hui avec la mondialisation, moi à mon époque, l'Inter Miami quand j'étais gosse, enfin je regardais pas la MLS parce que j'avais pas d'image. Là aujourd'hui, ça me vient aux yeux parce qu'il y a des grands joueurs là-bas et de toute façon quand on consomme le sport, on voit ce qui se passe là-bas. Donc ça a pour moi du sens. En revanche, le but, il est de faire de l'oseille, et ça, on va, c'est de toute façon, on le sait. Maintenant, le sport en général et le football encore en plus, bah, c'est histoire de faire de l'oseille. Mais dans ce lieu-là, à ce moment-là, c'est une cata avec cette chaleur-là en plus. En revanche, quel est le lieu qu'on y repense? Pourquoi pas?
L'idée bonne, de fond.
Okay. Jürgen Klopp qui a déclaré également, ce sont des gens qui n'ont jamais entraîné et qui n'en ont plus rien à faire, qui inventent quelque chose. Il a également dit, et il a comparé avec la NBA, un joueur de NBA qui gagne aussi beaucoup d'argent, à 4 mois de repos par an. Et son ancien joueur, Virgil van Dijk, n'a même pas eu ça une fois dans toute sa carrière. Voilà ce que dit Jürgen Klopp.
Je peux rajouter un élément.
Vas-y, et Simon après.
Il y avait eu en octobre, justement, le FIFPro qui avait engagé une action en justice contre la FIFA pour mettre en évidence en fait l'abus de domination qu'a la FIFA aujourd'hui avec ces nouvelles compétitions qui sont créées. Et le problème, là où je rejoins Jérôme, c'est que se dire effectivement dans un football qui est beaucoup plus global, avec une mondialisation qui est réelle, avec des championnats où auparavant il y avait éventuellement que le championnat européen qui existait et le reste était assez secondaire, que les téléspectateurs éventuellement aient envie d'avoir une confrontation mondiale, je suis assez d'accord, mais dans ce cas-là, il faut une refonte totale du calendrier européen, puisque les compétitions Qatar, aujourd'hui.
Tu l'as déjà fait avec les équipes nationales. C'est possible.
Mais pas mettre là, tu peux pas. Non, mais là, tu pour réorganiser tout ça avec les calendriers du coup des Sud-Américains, les calendriers de toutes les autres équipes, il faut s'asseoir réellement autour d'une table. Il faudrait quasiment 2 à 3 ans de planification pour arriver à organiser correctement pour que les joueurs aient à la fois quand même quelques semaines de repos avant de se replonger dans une pré-saison et avant de repartir dans le championnat respectif pour organiser une compétition qui a un sens sur le plan du niveau de jeu. Là, le niveau de jeu, il n'y a pas de niveau de jeu. Tous les joueurs, ils en peuvent plus. Ils marchent sur le terrain et pensent qu'il y a une chose.
C'est
éventuellement
sûr.
De ne pas se blesser pour pas justement handicaper leur saison suivante qui va recommencer avec leur club. Donc là, c'est à celui qui arrive à tenir debout et arriver à pas se faire un ligament croisé, une autre. Non, mais je te jure, j'ai regardé un match, c'est inregardable. C'est inregardable comme compétition, franchement.
Tu sais, Marion, 70 personnes qui regardent un match, comme tu le disais, moi, ça m'arrive tous les week-ends dans les grandes gueules du sport et ça fait de moi quelqu'un de bien quand même. Hein. Simon, tu as déjà donné ton avis 2-3 fois dans cette émission, donc on va passer la main parce qu'on est malheureusement un petit peu en retard. Et je sais tout bien que tu penses de cette Coupe du Monde des clubs.
Ah bon?
Je le sais, sans ironie, évidemment. Évidemment, à retrouver sur RMC, sur la radio digitale avec notamment
Marion,
ce match.
Tu peux dire, il y a quand même des choses qui valent le coup, et notamment certains clubs brésiliens et des joueurs qu'on
a. Très bien. En tout cas, à 18h PSG, Inter Miami, évidemment. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'UBB et parler de cette défaite traumatisante en prolongation. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.